Hier, les forces de défense israéliennes ont donc tenté d'éliminer le chef du Hamas, Mohamed Sinwar, en frappant l'hôpital européen de Khan Younes à Gaza. Les renseignements israéliens estiment que le numéro 1 du Hamas a bien trouvé la mort dans cette opération. Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Alors, les enquêteurs cherchent toujours à déterminer si Mohamed Sinwar a bien été éliminé, mais c'est ce que les renseignements israéliens ont l'air de dire, Raphaël.
Il y a eu une information, on appelle ça une information en or ou une information d'or, très très précise, qui a incité Tal et le Shin Bet à agir immédiatement, c'est-à-dire quelqu'un a signalé la présence de Sinwar à un endroit précis, à un moment précis, une occasion à ne pas rater et à saisir immédiatement. Donc si cette information s'avère exacte et si Sinwar était bien à l'endroit qui a été frappé, il est impossible qu'il ait survécu, car comme dans les éliminations précédentes, a été utilisée une telle quantité d'explosifs qu'il est impossible que la cible s'en sorte vivante. Donc ce qui reste à savoir maintenant, c'est une vérification de la présence physique de la cible sur le site. Et à ce moment-là, on pourra déclarer que M. Sinwar est décédé. Ceci étant dit, cela peut prendre en général 2-3 jours avant qu'on ait une confirmation. Mais l'optimisme est plutôt de mise en ce moment dans les couloirs du Shin Bet.
Alors c'est vrai que c'était une opération qui avait quand même été préparée depuis 6 mois avec le Shin Bet et le commandant du commandement sud, qui avait déjà dû être reportée à 2 reprises pour des raisons opérationnelles. Donc là, effectivement, même si à la dernière minute il y a eu cet ordre, c'est quand même quelque chose qui avait été préparé. Raphaël Jérusalemi, on dit que Mohamed Sinwar était le pire, le plus extrême en termes de négociations pour parvenir à un accord sur les otages. Et donc, on estime que s'il a été éliminé, ça pourrait être plus facile d'obtenir un accord avec le Hamas. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Oui, absolument. Sinwar, c'était les deux frères, mais celui-ci était encore pire que son frère, pire sur tous les plans, plus cinglé, plus fanatique. Mais aussi plus vicieux, dirais-je, dans le génie stratégique. Et donc, quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais aussi de néfaste à tout possible changement de direction du Hamas. Il était d'ailleurs en désaccord très très souvent avec les dirigeants du Hamas qui siègent à l'étranger, surtout au Qatar, qui sont un petit peu, oserais-je dire, plus modérés, enfin avec lesquels, en tous les cas, les Qataris ont plus facile à parler et négocier. Donc le fait qu'il ait été éliminé, c'est une bonne chose, non seulement pour une négociation qui reprend maintenant des otages, donc ça tombe bien, puisque justement, c'est le moment de recommencer à tenter de les libérer, mais également pour tout le reste, c'est-à-dire pour peut-être même un apaisement de la situation. En tous les cas, c'est une bonne chose, je pense même pour les Gazaouis, car il avait fait régner la terreur depuis longtemps. On a vu cette semaine des images de Gazaouis qui étaient frappés dans la rue ou même mutilés pour avoir tenté de prendre à manger sur les rations, etc. Donc, un personnage horrible. On ne peut que se réjouir de sa mort si elle est confirmée.
Justement, hein, Raphaël, sur cette affaire de l'aide humanitaire et du problème des Gazaouis, on entend beaucoup de pays européens et notamment la France et la Belgique critiquer largement Israël. Et il y a même des officiers de Tsahal qui ont expliqué qu'il allait falloir reprendre rapidement, sinon la famine va s'installer à Gaza.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a même des restaurants ouverts à Gaza City. Mais il est évident que d'ici un mois ou deux, il y aura une pénurie, car les Gazaouis vivent maintenant sur leurs réserves de nourriture. Ce qui montre qu'en fin de compte, depuis le temps qu'il n'y a pas eu d'apport d'aide humanitaire, il y a eu plein à manger à Gaza. Ça voulait dire donc qu'il y avait même un surplus lorsqu'on a exigé des Israéliens cette aide humanitaire. Ils l'ont donné et il y a eu un surplus. Surplus qu'il y a énormément profité au Hamas et donc qui a entretenu en fait la guerre. Et la raison pour laquelle on a stoppé, c'était parce que cette aide entretenait la guerre. Il faut donc maintenant trouver une solution de distribution de l'aide humanitaire qui est maintenant urgente, effectivement, mais la solution qui ne soit pas quelque chose qui fournisse de fuel à la guerre. Et donc, on est en train d'y travailler, surtout avec les Américains, avec possiblement des sociétés privées. Et les Européens qui critiquent sont les bienvenus à surtout aider. Parce que parler, c'est une chose, et faire, c'est autre chose. Et donc, il y a ici maintenant des avis qui diffèrent selon les experts. Certains experts ou officiers prétendent qu'il y a urgence, et le chef de l'état-major de Salle a prévenu le gouvernement qu'il fallait à un moment donné à un autre bientôt reprendre la distribution, et d'autres qui prétendent que les calculs ne sont pas exacts et qu'il y a plus de nourriture dans Gaza qu'on ne le dit. En général, surtout les Européens, ils sont champions. On exagère, on en rajoute, on est tout le temps sur le dos d'Israël. On attend de voir ce qu'ils vont faire, non seulement pour les Palestiniens, mais pour les Haïtiens, pour les gens du Rwanda, pour toutes les crises dans le monde où ils ne font absolument rien. Je rappelle que sur le sol européen en ce moment, il y a des ateliers clandestins chinois où des milliers de travailleurs sont en esclavage entre 12 et 14 heures par jour de travail sur le sol européen. Donc l'Europe, taisez-vous.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalmi, ce sera par rapport aux parents d'Idan Alexander. Il a été libéré grâce à l'aide des États-Unis et du coup, ses parents n'ont remercié que Donald Trump, Adam Boehler et Steve Witkoff, mais pas Benjamin Netanyahu, et ça fait polémique en Israël. Vous en dites quoi ?
Bien, on sait que parmi les familles d'otages, vous avez un éventail politique qui correspond plus ou moins à la société israélienne. Donc c'est un petit peu la même division entre gauche, droite, et vous avez donc beaucoup de gens qui sont à gauche et qui sont de toute façon traditionnellement contre le Likoud ou contre Benjamin Netanyahu, à ces idées politiques que je ne peux discuter puisque chacun a ses idées. Il y a le fait que durant les derniers mois, il y a eu de mauvaises relations entre le gouvernement et les familles d'otages. Le gouvernement n'a pas embrassé, enlacé suffisamment les familles d'otages qui se sont senties délaissées. La politique menée par le gouvernement était plus en faveur d'un démantèlement du Hamas en premier que de la libération des otages comme objectif principal. Donc il y a eu, si je puis dire, de l'eau dans le gaz entre le niveau politique et le niveau des familles. Loin de moi de juger de toute manière des parents qui, depuis des mois, subissent une telle angoisse. Leur réaction est leur réaction, on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir ce qu'ils ressentent et être à leur place, et donc chacun a sa réaction. Ça aurait pu être quelqu'un qui remercie Benjamin Netanyahu et pas Donald Trump, et franchement, le plus important, c'est qu'il y a eu une libération.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalmi d'avoir été avec nous, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, également écrivain, auteur de nombreux livres, dont le dernier, Infiltration. Bonne journée à vous, à très vite.